Pierre, Laurent et Olivier.
Nous allons donc maintenant écouter trois communicants, à savoir donc Laurent Grune, Manuel Roux et bien sûr donc Monsieur Pierre Raboud. Pierre Raboud, il est docteur en sciences politiques, il est enseignant dans le secondaire, donc il enseigne le français, et il vient par ailleurs de sortir un livre qui est le premier de la collection En Marge, dirigé par Solveig Serre et Luc Robin, donc qui dirige le PIND, et cet ouvrage est donc le premier d'une longue série. Je vous le conseille vivement, Fun et Mégaphone, l'émergence du punk donc en Suisse, France, RFA et RDA. Voilà, je laisse immédiatement la parole à quelqu'un qui risque d'être en retard pour une communication qui s'intitule eh bien, le punk, l'invention d'une musique populaire et subversive. Point d'interrogation, à toi.
Bonjour à tous, donc ouais, je voulais profiter de ce workshop où on se retrouve un peu tous pour m'arrêter brièvement sur une notion, celle de musique populaire, que finalement on emploie peut-être chacun assez souvent dans nos différents champ de recherche et qu'on ne questionne pas souvent. Et je voulais poser cette question, est-ce que le punk, c'est une musique populaire et subversive en même temps? Et en tout cas, pas quand il est utilisé et détourné comme actuellement au bon marché, mais si on revient au punk qui nous intéresse, pour répondre à cette question, je vais d'abord définir ce qu'on entend par musique populaire, et puis après je vais essayer de demander en quoi le punk, on peut considérer que c'est une musique populaire ou pas, et qu'est-ce que son côté populaire a de spécifique. Donc déjà, la notion de musique populaire, c'est une notion qui est loin d'être évidente ou claire. La culture populaire, elle se rapporterait à une dimension concernant les gens ou le peuple, de nouveau deux notions problématiques, à la fois comme public ou comme marché, mais aussi le populaire, ça peut renvoyer au sujet, c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques, de thématiques, de pratiques culturelles. Et il faut aussi savoir que l'expression française, elle vient de l'anglais popular culture, et que cette traduction, elle entretient d'autant plus la confusion qu'il n'existe pas dans notre langue d'équivalent au mot anglais folk, comme pour la folk music. En effet, dans la langue anglaise, il y a une distinction entre la culture qui se réclame explicitement du peuple, là serait la folk culture, genre la folk music, et celle qui est plus simplement massifiée, répandue et accessible. Ici, en anglais, c'est popular culture. Donc en français, le mot populaire, il a forcément cette polysémie et qui renvoie peut-être tout le temps à ces deux sens du populaire. Et c'est ce qui fait justement que peut-être cette question de la musique populaire, ça amène des fois plus de confusion qu'autre chose lorsqu'on essaye de parler d'un genre musical. Et pour finir rapidement sur cette question des définitions, il y a Stuart Hall qui, pour essayer de déconstruire ce terme, celui de culture populaire, il l'a défini comme la culture qui, je cite ici, embrasse pour une période donnée les formes et les activités qui ont leur racine dans les conditions sociales et matérielles des classes particulières et qui se sont incarnées dans les traditions et les pratiques populaires. Donc pour résumer, une musique populaire, elle renvoie à la fois un élément quantitatif, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par une production largement diffusée et pratiquée, ou à un élément qualitatif, ici une musique qui serait liée de façon organique à un public populaire, précaire, possédant des codes et des valeurs culturel propre. Donc à partir de cette définition, est-ce qu'on peut dire que le punk, c'est une musique populaire? Donc si on prend l'aspect quantitatif, il semble difficile de répondre par l'affirmative. Le punk, s'il a brassé et touché de très nombreuses personnes, c'est que rarement, évidemment on pourrait citer des exceptions, qu'il a touché un public de masse. Mais finalement, c'est pas tellement ici cette question du quantitatif qui m'intéresse aujourd'hui. Et en plus, c'est une problématique que j'ai déjà un peu abordée lors d'une précédente journée d'études, donc je ne vais pas revenir là-dessus, celle sur la réussite. Et donc, pour revenir plutôt sur l'aspect qualitatif, à mon avis, il faut considérer deux aspects. Quand on parle d'une culture comme celle de la définition de Stuart Hall qui est reliée à une certaine classe, il faut donc ici poser la question de l'origine sociale des punks, et il serait justement intéressant de se demander est-ce que c'est vraiment on a un public qui a une origine dans les milieux marginaux ou précaires, et on pense ici évidemment au cas des punks anglais qui surjouaient leur accent ouvrier au tout début du mouvement et qui justement ont été supposés provenir des milieux populaires sans pour autant que cette origine sociale elle n'ait été forcément corroborée solidement par des études. Et en ce qui concerne la France, là aussi, la situation actuelle, c'est qu'on n'a pas de chiffres précis qui nous permettraient justement de nous donner des indications là-dessus. Peut-être que, Laurent, tu vas un petit peu évoquer ça après, je ne sais pas. Je ne serai pas là, donc maintenant.
Alors, oui.
Ok, donc j'écouterai après. Donc, la seule chose dont on dispose aujourd'hui, c'est vraiment des données très ponctuelles qui peuvent seulement permettre de dresser un portrait à grands traits. Et en France, on a souvent cette idée sur les toutes premières années d'une première scène qui serait une scène du dandysme parisien, d'une première vague, qui seulement à partir des années du début des années 80 deviendra un punk plus banlieusard dans cette deuxième vague. Et néanmoins, c'est, voilà, même si c'est une distinction qu'on retrouve très souvent dans l'histoire du punk en France, elle n'est que rarement démontrée en détail, ni réellement confirmée empiriquement. Et plutôt, quand on essaie de regarder, on voit plutôt à quel point les frontières entre ces deux vagues sont souvent floues, et à quel point le punk était déjà intégré dans certaines banlieues, comme on l'a vu à Issy-Moulineaux l'an dernier. Et donc, la chose qu'on connaît le mieux, finalement, c'est l'environnement social de certaines formations. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, à partir de 1980, il y a un plus grand nombre de groupes et une scène qui va s'étendre quand même de façon plus profonde au-delà de Paris et qui va rassembler des individus aux origines sociales variées, dont une part importante provient des banlieues. Et ici, évidemment, on peut facilement citer des noms de groupes issus de ces zones-là, comme la Souris Déglinguée, les Rats, les Brigades et d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme source pour les historiens, dans un rapport de police de 79 sur le mouvement autonome, il y a les punks qui vont être identifiés justement comme un groupe social qui appartient aux marginaux, aux précaires. Dans ce rapport de police que je vais citer ici, on parle des punks comme faisant partie d'un courant des marginaux qui regroupe une masse fluctuante d'individus venant d'horizons divers. Et ici, en parenthèse, punk, dealer, drogué, voyou. Donc on voit quelle est l'association faite ici par la police. Donc même si, voilà, mais est-ce que ces éléments-là sont vraiment... Est-ce qu'on peut faire plus confiance à ces éléments-là? Est-ce qu'il faut croire la police? Je pense pas non plus. Mais voilà, on est toujours avec des informations trop imprécises pour donner un profil de l'origine sociale des membres de la scène punk en France. Tout juste, on peut constater qu'au moment où cette dernière elle va s'élargir au début des années 80, elle va intégrer une proportion importante d'individus issus des banlieues. Et voilà, donc là serait plutôt un appel à mener cette étude des origines pour pouvoir donner une réponse plus précise. Voilà, et on peut aussi dire que néanmoins, les gens qui composent la scène punk ne sont pas issus des lieux de pouvoir ou d'influence, et que la part des personnes précaires, elle s'accentue avec le temps et avec l'aggravation de la crise en France. Voilà. Donc, ces quelques données, même si voilà, elles restent très imprécises, elles permettent néanmoins de nuancer les récits récurrents sur l'origine sociale du punk qui en font soit une mode parmi d'autres, performée par une avant-garde artistique, soit au contraire l'expression d'une jeunesse ouvrière subissant la crise de plein fouet. Les quelques pointages statistiques montrent que le caractère réducteur de telles analyses qui méconnaissent la composition hétérogène d'un mouvement qui s'est constitué, qui n'est constitué majoritairement ni d'étudiants, ni de groupes issus uniquement de zones précaires. Et de plus, les scènes punk en France, elles n'ont fait que rarement développer des références ostensibles à une entité prolétaire, avec néanmoins des exceptions aussi, comme on a pu parler pour la Normandie ou la Bretagne, ou le cas du Havre qu'on a évoqué ce matin. Mais cette composition ne remet pas pour autant en cause le potentiel caractère populaire du mouvement punk. Elle vient plutôt appuyer, à mon avis, ce qui a été dit des nouveaux mouvements sociaux et le fait que la classe ouvrière, à ce moment-là, à la fin des années 70, elle va perdre le rôle d'incarnation unique de ce qu'est le populaire. La présence de nombreux individus issus des milieux précaires à partir des années 80, elle demande la capacité des scènes punk à répondre aux besoins et aux attentes d'individus touchés par l'aggravation de la crise et par les politiques d'austérité. Donc la contestation qui est exprimée par les pratiques culturelles punk, elle fait sens pour de nombreux jeunes précaires qui s'y investissent pour exprimer leur rupture vis-à-vis de la société dominante. Donc le punk est, à mon avis, en ce sens populaire, dans le fait qu'on retrouve aussi des exigences propres au punk, qui a une connexion directe avec la réalité des acteurs et des actrices. Le punk refuse la sophistication pour traiter des sujets du quotidien, exprimer la rage sans phare, et on peut encore ici évoquer le fait de la volonté de rendre accessibles les moyens de faire de la musique, qui aussi là aussi sont quelque chose d'important pour qualifier une musique de populaire. Donc, pour conclure, on peut dire que le punk est populaire, mais un populaire largement remodelé. Dépourvu de références ouvrières, au contraire du cas britannique pour lequel la persistance, elle s'explique aussi par le fait que l'origine ouvrière garde un prestige culturel très très fort dans la culture britannique jusqu'à aujourd'hui, Et ce qui n'est pas tellement le cas en France. On peut penser à des, on peut encore aujourd'hui voir des films britanniques où il y a des syndicats qui sont mis en avant de façon très positive, tandis que si on prend le cas du cinéma français, on parlera plutôt directement de précarité. Donc, c'est aussi, c'est des, à mon avis, là, ça s'explique aussi par le statut social des syndicats en Angleterre, ce qui peut paraître paradoxal. Et comme ce cinéma français parlera plutôt des précaires, je pense aussi que le punk se revendique aussi en France de cette précarité-là, de la débrouillardise, une France de la rue, des bières bon marché. Et alors que le populaire semblait ne pouvoir suivre que les voies tracées par le consensus ou celles qui sont usées par la tradition, le punk qui va justement proposer un populaire du réel, mais qui sait en même temps rester marginal et subversif. Voilà, merci.
Bien, merci beaucoup Pierre pour ces quelques minutes brèves mais très intenses et très synthétiques. Je crois qu'il va, va falloir qu'on te laisse aller prendre ton train. Peut-être on prend quelques questions rapides si tu as envie d'y répondre, s'il existe déjà des questions. Alors, il faut peut-être faire passer un micro. Merci beaucoup.
Oui, bonjour. Moi, je suis un petit peu en désaccord avec ce que vous dites. Ça me paraît... D'abord, vous parlez beaucoup des années 80. Le punk, ça commence quand même en 75. Donc, vous parlez de l'émergence en 80, c'est un petit peu tardif. Et pour rappeler... vous parlez du punk français. Mais pour revenir au punk anglais, je tiens à rappeler quand même que les pires critiques contre les Sex Pistols viennent des tabloïds et de la classe populaire anglaise. Je veux dire, God Save the Queen, ça heurte avant tout la classe populaire anglaise, qui est en plein jubilé, et c'est pas du tout une adéquation avec la classe populaire anglaise. Même les punks, à cette époque, les punks anglais, sont peut-être même eux-mêmes en rupture avec la classe populaire anglaise. Donc j'ai un petit peu de mal à adhérer complètement à votre analyse, et je pense qu'au départ, c'est pas, le punk, pour moi, n'est pas, au sens stricto sensu, une musique populaire.
Donc, moi, je suis. Voilà, j'ai dû faire très vite parce que. Voilà, comme j'avais peu de temps. Mais, donc, moi, je suis plutôt assez d'accord avec vous. C'est un populaire, comme je voulais dire, si c'est populaire, c'est vraiment un populaire très modelé. Et j'ai pas dit que ça commençait. Ça émergeait aux années 80. J'ai dit que ça émergeait à la fin des années 70 en France, 76, 77, qu'il y avait une première vague. Après, qu'il y ait cette deuxième vague plutôt début des années 80, que c'est plutôt là qu'il y avait une précarisation. Mais j'ai pas dit que le punk émergeait à ce moment-là. Et puis, sur l'Angleterre, donc, je suis aussi assez d'accord qu'on ne peut pas directement parler d'une musique populaire, parce que sur les médias mainstream, il y a une critique là-dessus. Mais néanmoins, une espèce de fascination pour l'identité ouvrière au tout début du punk britannique, qu'on retrouve, à mon avis, moins en France. À part dans certaines régions. Voilà. C'était là-dessus.
D'accord, oui, ça me paraît un petit peu plus clair. Mais fascination, pareil, j'ai un petit doute aussi bon, par rapport aux Sex Pistols et autres. Bon, j'ai quelques doutes par rapport à cette fascination pour les milieux populaires. Je veux dire, c'est un point de vue personnel, mais on aura peut-être l'occasion dans d'autres rencontres d'en parler plus longuement si vous êtes pressé.
Ouais, volontiers.
Alors peut-être, moi, je voudrais rebondir avant qu'il y ait une autre question. Vous savez que d'un point de vue musicologique, le populaire s'oppose au savant, dans le sens où on parle de tradition, de transmission. Donc dans le savant, c'est l'écriture. On note la musique, donc on la transmet de cette manière-là. Et dans le populaire, on appelle maintenant, on a arrêté avec cet adjectif qui était rabaissant, hein, qui était clairement une préférence des musicologues de parler de la musique savante et pas de musique populaire. Et aujourd'hui, il y a un terme qu'on utilise qui s'appelle les musiques phonographiques. Donc, en gros, qui sont liées à l'histoire de l'enregistrement. Mais là, on ne parlait pas de ça. Je dis juste qu'il y a également des réponses de ce côté-là. Et je te laisse.
Oui, voilà, moi, j'allais dans le même sens. J'ai lu les 700 pages du bouquin de John Savage que je n'avais jamais lu sur les Sex Pistols, qui est vraiment le détail de leur aventure. Et en effet, il y a un positionnement qui est très particulier, mais qui commence par recycler les sous-cultures plutôt que des cultures populaires. Mais les sous-cultures qui sont quand même ouvrières, pour ce qui est quand même de ce à quoi s'intéresse le couple McLaren et Westwood. Et il est vraiment expliqué quasiment jour par jour comment, à partir de Rock Against Racism, comment, avec les Clash et d'autres groupes, et puis après avec Cham, comment on arrive à un rock qui est clairement à gauche, qui est forcé de se positionner à cause de l'arrivée en Angleterre du Front National. Donc je pense qu'en effet, tu n'avais pas d'ambiguïté là-dessus. Simplement, oui, populaire, ça reste quand même, pour ce qui est de l'Angleterre, en tout cas, quelque chose de très clairement des classes ouvrières. Même si il s'agissait d'un recyclage intellectuel de la part de Westwood et McLaren, quoi.
On te remercie, Pierre. On peut l'applaudir. Merci. À bientôt, donc.